bien de sonner la cloche avant de commencer.
Bien sûr, bien sûr. Nous n'allons pas commencer comme ça, sans prévenir.
Je peux y aller pour la cloche après.
La grande.
Bien, écoutez, je suis très honoré de pouvoir présider cet après-midi avec des communications qui s'annoncent fortes, théoriquement, avec donc trois interventions. Qui seront celles d'Antonin Viseur à mes côtés, puis de Simon Saint-Onge et enfin de Sylvie Servoise. Voilà. Donc je vais présenter pour commencer Antonin. Donc Antonin Viseur est en co-tutelle de thèse en philosophie à l'université de Lausanne sous la direction de Jean Kempfer et à l'université de Paris 4 Sorbonne sous la direction de Gérard Rollet. C'est notamment sur l'utopie en littérature selon Adorno, sur utopie et littérature dans la philosophie d'Adorno. Voilà. Et donc la communication qu'il nous propose cet après-midi directement en connexion avec son sujet de thèse, puisque le premier titre était « Espace utopique de la littérature Volodine Adorno ». Donc là, Antonin nous propose un titre alternatif que je vais vous présenter, « Un archipel post-exotique ». Essai de lecture géocritique de Des anges mineurs d'Antoine Volodine. Donc nous allons découvrir ce que c'est que la géocritique.
Merci. Alors tout d'abord j'aimerais remercier les organisateurs de me donner la parole lors de ce colloque. Je suis très honoré d'être là. J'avais effectivement annoncé comme titre de ma conférence « Espace utopique de la littérature », Adorno-Volodine-Adorno. Je vais à la fois, ça parlera bien de ça, Adorno sera peut-être un peu dilué parmi d'autres philosophes que je pense mobiliser. Je suis désolé pour Anne Roche qui avait l'air de se réjouir d'entendre beaucoup parler d'Adorno, on en entendra peut-être un petit peu moins parler. Et puis, oui, je vais me concentrer sur un texte, Des anges mineurs. Et puis, avant de commencer, il y a deux petits textes que je vais vous proposer un exergue de cette conférence. Le premier est tiré de l'allégorie de Philippe Lacoulaba. Mais sortir du jardin, malgré tout, s'avère pratiquement impossible. D'ailleurs, atteint par on ne sait quelle paralysie, on tombe, on demeure donc. Quand on lève les yeux, le spectacle de l'étendue vide et blanche, lui, ne disparaît pas. Le murmure, à peine audible, ne cesse pas. Et le deuxième petit texte que je vous propose en exergue. Écrire n'a rien à voir avec signifier, mais avec arpenter, cartographier, même des contrées à venir. Et ça, c'est un extrait de Mille plateaux de Lusegata. Alors, dans la monographie qu'il lui consacre, Lionel Ruffel note que le monde d'Antoine Volodine est moins spatial que temporel ou moins géographique qu'historique. Et pour les lecteurs et lectrices de Volodine, la pertinence de ce constat est sans appel, tant l'œuvre est travaillée et travaille magistralement le XXe siècle comme substance, je cite toujours Lionel Ruffel. Je voudrais toutefois me risquer aujourd'hui à parler plutôt de la question de l'espace. On n'y verra pas là véritablement une divergence, si tant est que le siècle passé, qui a tant placé et déplacé de frontières, fut marqué par ce que Marcel Gauchet a nommé un tournant géographique des sciences sociales. Un tournant qui est lisible, par exemple, dans le texte de Deleuze et Guattari, « Qu'est-ce que la philosophie ?» qui propose le programme d'une géophilosophie, je cite, « pour arracher l'histoire au culte de la nécessité, pour faire valoir l'irréductibilité de la contingence et affirmer contre le culte des origines la puissance du milieu. Alors ce tournant géographique des sciences humaines, il est perceptible aussi bien dans les problématiques philosophiques, historiques ou anthropologiques, et il l'était peut-être moins jusqu'à il y a peu de temps dans le domaine des sciences littéraires, jusqu'à ce que Bertrand Westphal propose en 2000 ce qu'il appelle une approche géocritique des textes. Dans le fond, mon intervention d'aujourd'hui peut être entendue comme une contribution dans les parages de cette géocritique. Je fais néanmoins une remarque. La géocritique de Westphal juge a priori, je cite, « préférable de porter sur les espaces humains dont le catalogue est dressé dans les atlas de géographie ». Et donc, propose d'étudier plutôt les rapports des textes littéraires à des lieux réels. Évidemment, une lecture géocritique de l'univers post-exotique est contrainte d'emblée de se poser comme une exploration immanente de l'espace fictionnel. Je pense que ça sera clair au fil de mon exposé. En effet, en entrant sur le terrain post-exotique, on s'aperçoit assez vite que les atlas qu'on aurait pu emporter avec nous ne sont guère utiles pour nous repérer et qu'il nous faudra plutôt bricoler une carte au fur et à mesure. C'est ce que je vais essayer de proposer de faire en lisant des anges mineurs. Donc j'entre dans ce texte, et le paysage qu'on découvre apparaît d'emblée unheimlich, étrangement familier. Il nous rappelle bien quelque chose, mais d'une façon inquiétante. On ne s'y sent pas vraiment à l'aise, on ne sait pas comment s'y installer, comment y trouver place. Et on peut vouloir chercher dans un premier temps à se rassurer avec quelques points de repère, quelques noms propres par exemple, comme Luang Prabang, Canton, le lac Öfsgöl. Voilà quelques noms propres qu'on trouve qui pourraient servir de points de repère, mais très vite on se rend à l'évidence. Ils semblent avoir perdu tout enracinement référentiel, être devenus des signifiants flottants qui passent comme des comètes dont la chevelure brille encore faiblement de lointaines évocations. Le lieu où nous sommes se situe, je cite, « après le temps où sur les cartes les noms avaient encore une signification ». Donc ça c'est une citation des anges mineurs comme la plupart de celles que je vais faire. Et on doit soupçonner que ces noms qu'on peut rencontrer, comme l'Ontario, le Dakota, la Buryatie, le Laos, sont là, je cite, « pour la beauté du nom ». Quelque chose s'est produit qui a effacé le savoir que nous associons à ces noms et à ce qu'ils désignaient qui, sur les cartes, je cite, figure maintenant en blanc. Le blanc a donc envahi les cartes, comme le sable le paysage. Les dunes ont, je cite, rampé hors de leur lit torride pour parcourir des régions jadis prospères, pour les étouffer jusqu'à ce qu'elles acceptent la domination sans partage du rien. Des continents entiers ont disparu. On découvre un espace littéralement déserté, pas seulement un espace finalement, mais une espèce. Une espèce puisque l'effacement cartographique qu'on lit ici, est solidaire de la dissolution de la communauté humaine, qu'on a abordé dans le fond déjà ce matin. Plus on avance, et plus, je cite, on va vers de nouvelles zones entièrement dépeuplées. Et désormais, ceux qui se lancent à la découverte de ces terra incognita sont animés par le désir, je cite toujours, de savoir si toujours, au loin, existent des hommes et des femmes. Nous apprenons donc que l'humanité est parvenue à un stade avancé de dispersion et d'inexistence où, je cite encore, les humains étaient à présent des particules raréfiées qui ne se heurtaient guère. Et cette image de particules qui ne se heurtent pas suggère un phénomène d'entropie dont nous reconnaîtrons diverses manifestations, mais dont la moindre n'est certainement pas la difficulté extrême qu'ont les personnages qu'on rencontre dans des anges mineurs à accomplir tout acte reproductif. Le monde se refroidit, se morcelle, et cela affecte l'espace commun. Une citation du Nara 40, « Comme au début de l'humanité, les distances n'étaient plus à l'échelle humaine. » L'univers post-exotique ressemble alors en cela à ce que Peter Sloterdijk appelle l'ère paléopolitique, à ceci près que le philosophe allemand considère que l'ère paléopolitique, et je cite, le miracle, permet le miracle de la répétition de l'homme par l'homme, alors que dans ce miracle ici paraît, malgré l'intervention de la magie chamanique, fort compromis. Les communautés de l'ère paléopolitique, qui regroupent précisément ce qu'on peut trouver dans la citation que je venais de faire de des anges mineurs, qui correspondrait au début de l'humanité, Sloterdijk les représente comme, je cite, des sortes d'îlots dérivant lentement et spontanément au gré des courants de la vieille nature, des sphères animées entourées par un invisible anneau de distanciation. C'est seulement à travers un processus historique que ces îlots, dans la reconstruction philosophico-historique que propose Sloterdijk, que ces îlots se constituent en un globe et font émerger un monde. Cette mondialisation, cette constitution du monde semble avoir atteint dans des anges mineurs un point d'inflexion où la surface de la Terre unifiée se craquelle, où les liens se distendent radicalement et où on atteint ce que Sloterdijk appelle avec Musil une époque sans synthèse. Donc un étrange retour en arrière qui semble indiquer que l'espace orthogonal dans la modernité s'était servi pour penser son histoire comme une progression linéaire, et bien que cet espace s'incurve dans la fiction post-exotique et dessine une géométrie non euclidienne, de type elliptique, donc un espace courbe dans lequel, quand on suit une ligne droite, on revient au point de départ. Ce qui était d'ailleurs déjà le résultat des circumnavigations qui ont permis de constituer le monde comme... qui ont été l'achèvement de la clôture empirique du monde dans l'histoire que décrit Sloterdijk, et ces circumnavigations, les personnages des anges mineurs en gardent un certain souvenir. Alors si le projet totalisant s'avère justement impossible désormais, hors de leur portée, du fait de l'éclatement de la continuité géographique, spatiale du globe, les personnages qui se lancent dans ce type d'expédition n'en parviennent pas moins à un résultat parfaitement identique, c'est-à-dire, je le formule avec une citation des anges mineurs, « comme souvent, nous revenions incoerciblement à notre point de départ ». Voilà ce qu'il en est de cet espace non euclidien elliptique. Alors la carte qu'on peut tenter de dessiner de des anges mineurs ressemble, sur ce globe éclaté, à celle d'un archipel, d'un ensemble d'îlots. Je reprends cette image de Sloterdijk, d'îlots à la dérive, entourés, séparés les uns les autres par une marge blanche, ce qui est d'ailleurs très, très exactement le dispositif textuel avec ces fragments, une fragmentation donc du texte qui a l'image de l'univers diégétique. La discontinuité spatiale affecte en premier lieu la communication et ses modalités. Beaucoup des personnages restent isolés. Lorsqu'une rencontre a lieu, c'est à peine si on a quelque chose à se dire, et le plus souvent on garde le silence. On en vient même peut-être à douter de l'existence d'une langue commune partagée entre les différents anges mineurs, chacun sur leur îlot, leur nara. Comme si ce que Sloterdijk nomme la cohésion sonosphérique, ce qui constitue pour lui des unités qu'il appelle phonotopiques, des lieux où il y a une communauté phonique, comme si ça s'était dissous, ces bulles-là s'étaient dissoutes. Et lorsqu'il est fait mention d'une langue, dans des anges mineurs, par exemple dans le Nara 20, eh bien elle apparaît sans attache, composite et seconde. Je cite un petit passage du Nara 20. Maliutin s'exprimait en un dialogue mongol qu'on parle à l'ouest du lac Özgül, et il parlait avec des déformations spectaculaires. Il empruntait son vocabulaire au russe, au coréen, au kazakh, qu'il avait pratiqué dans les camps 300 ans auparavant, et qui s'était substitué à sa langue maternelle, dont je suppose qu'elle était, malgré tout, le darad. Il prononçait ses conférences dans ce sabir laborieux. La langue n'est donc plus du tout la maison de l'être, comme le proposait Heidegger. Les personnages volodiniens sont des nomades d'un langage lui-même menacé d'extinction. Je cite, « On touchait déjà une époque de l'histoire humaine où non seulement l'espèce s'éteignait, mais où même la signification des mots était en passe de disparaître. » L'entreprise d'un personnage de Varvilia Lodenko représente l'ultime tentative pour lutter contre ce cours des choses et tenter de recréer une sonosphère justement commune, comme le suggère le motif des cassettes qu'on retrouve en arrière-fond sonore de plusieurs naras. Ce projet s'inscrit dans l'horizon d'un projet qu'on pourrait dire macropolitique, qui serait celui d'étendre, toujours selon le vocabulaire de Sloterdijk, la cloche psychoacoustique dans laquelle circulent les discours communistes au blé moucheté entre les grands-mères immortelles, d'étendre cette bulle à l'ensemble du monde. Ça serait le projet macropolitique. Ça serait la politique moderniste, dans le fond. Seulement, l'entropie semble avoir gagné également l'espace politique au point que tout écho étouffé s'y perd avant même d'avoir atteint quelque destinataire que ce soit. Les molécules qui forment l'archipel sont trop raréfiées pour s'agglomérer et former des masses molaires. Les masses ont disparu, dit-on dans le Nara 25. Et le communisme aussi bien que le capitalisme ont trop perdu de force pour pouvoir être encore en mesure de produire de l'histoire. Dans le fond, la lutte des classes s'éteint, faute de combattants. Ce que j'aimerais illustrer avec la citation suivante. « Les riches, je ne sais pas, » dit Clara Gutzul. « J'aimerais bien en éliminer quelques-uns, mais je n'en rencontre jamais. Si tu en vois, tu les dis-je. Fais-toi aider par les basketteuses. Je n'en rencontre pas, » insista-t-elle. « Je ne rencontre personne nulle part. » Toutes les figures du silence et des ruptures de communication qu'on rencontre au fil des naras aggravent l'isolation insulaire des anges mineurs qui les occupent. Ces figures du silence ne sont toutefois pas toutes équivalentes. Il y a parfois des formes de reconnexion détournées, biaisées ou indirectes. Ainsi, par exemple, les paroles de Clara Gutzul que je viens de lire sont prononcées dans un téléphone dont, certes, on peut penser que la ligne est coupée, mais qui fonctionne comme un dispositif qui médiatise la communication avec Jesse Lou, qui se tient de l'autre côté de l'appareil et qui se fait passer pour Varvilia Lodenko. Donc il y a des formes d'échanges indirects, de contacts, mais globalement le médium communicationnel, par exemple celui qui sert également à l'échange entre Balthazar Bravo et les Dox, il y a un échange d'objets, s'il n'y a pas de paroles qui sont échangées, ben c'est le médium communicationnel est ambivalent, il est un moyen de contact, mais il est aussi toujours un effet de distanciation, il y a une mise à distance. Donc lorsqu'il y a une rencontre entre deux personnages, malgré l'isolement, elle est souvent placée sous le signe de la distance, que ça soit la distance du silence gardé, par exemple, après les conférences de Maliutin ou entre Baba Yashtern et son voisin, la distance du malentendu, lorsque Lydia Marvani vient se coller contre Krili Gampo en croyant le reconnaître, ou la distance encore du sentiment d'être étranger à l'autre, Borodine parlant avec les femmes aux immenses yeux d'or qui, dit-il, n'étaient pas du même monde que lui, ou le cas de l'extraterrestre, entre guillemets, Krili Gampo, sur lequel je reviendrai. Donc des distances et en même temps ces rencontres sporadiques qui se déroulent et qui ne se déroulent pas uniquement dans l'espace insulaire de chaque nara. Il existe toute une série de personnages qui brisent l'isolement des îlots textuels et qu'on retrouve d'un nara à l'autre. Donc malgré la discontinuité géographique, l'archipel post-exotique offre des points de passage à ces gens vagabonds. L'unité de chaque nara n'est pas aussi ferme qu'il y paraît, et les frontières sont partout poreuses, permettant de dessiner des trajectoires nomades interinsulaires. Ces frontières poreuses, elles sont lisibles, me semble-t-il, dans les inaboutissements bizarres de certains naras, ceux qui se terminent par des questions, on perd la trace d'un personnage, et ça signale l'absence de clôture ferme. On n'a pas affaire à des monades. Il y a des passages qui se percent d'un nara à l'autre, et c'est des passages qui restent toutefois secrets. Ils paraissent emprunter le chemin de connexion géologique souterraine, sous-marine plutôt, puisque je poursuis mon image de l'archipel, qui relie de façon invisible, sous la surface maritime, les îlots que la mer vient découper. Et c'est bien qu'un archipel possède le plus souvent provient d'une formation géologique commune, volcanique par exemple. Il y a en dessous de la mer quelque chose qui relie de manière invisible. Donc il existe toute une série de galeries ou de réseaux, à l'instar de la fourmilière du Nara 27, qui, je cite, permet d'arpenter en toute discrétion la totalité des vestiges. Voilà comment on peut circuler dans ce texte. Alors bien sûr, c'est un réseau qui évoque le rhizome de Leusien. Je ne vais pas creuser cette piste-là, puisque j'en choisis une autre. Et le lecteur qui l'emprunte est conduit par saut d'un fragment à l'autre quand il suit un personnage récurrent. Les personnages circulent donc également. Il faut ajouter qu'ils circulent évidemment pas seulement d'un art à l'autre, mais d'un texte à l'autre, d'un livre à l'autre. Ce phénomène de circulation ne saurait toutefois occulter la caractéristique fondamentale de ces circuits secrets ou sous-marins, c'est qu'ils sont fermés. C'est explicitement le cas des couloirs d'évacuation empruntés au Nara 47, dans lesquels, je cite, on tourne en rond. Quant au tunnel d'où débouchent les protagonistes du 8e Nara, ils sont conduits dans un cul-de-sac. On aurait aussi bien fait de ne pas venir, conclura Emilian Bagdashvili. Et la difficulté, c'est évidemment de comprendre comment cette circulation manifeste d'un Nara à l'autre, cette porosité textuelle et ce nomadisme des personnages, vient précisément établir la clôture de l'espace post-exotique. C'est ça que j'aimerais essayer de faire comprendre. Comment la circulation fonctionne en même temps avec la clôture de l'espace fictionnel. Alors pour essayer cette démonstration, je vais faire un petit détour sur deux personnages, en particulier Sophie Girond et Krilly Gampo, qui vont me permettre d'aborder deux types d'espaces spécifiques. Le cas de Sophie Girond nous fait entrer dans l'espace onirique. Ses rapports le rapport de l'espace onirique aux autres espaces est complexe. Il apparaît à la fois distinct, détaché, difficile d'accès. Hein. Parfois, il faut plusieurs années avant d'une conjonction de rêve qui permette d'entrer dans l'espace onirique, et en même temps il se présente dans la continuité géographique de l'espace post-exotique, comme c'est le cas dans le Nara 35, où on a la description d'un Nara qui est consacré exclusivement à la description d'un itinéraire ou d'un parcours. Et donc je lis ce passage. Au-delà des ciels chenus, après avoir franchi le pont que souvent on nomme le Buffalo, il y a un élevage de tigres où on ne peut pénétrer qu'en rêve. Les tigres sont blancs, d'une beauté paralysante, ils sont reclus sous des vitres posées à même le sol. Ils vont et viennent en levant la tête, tandis qu'une queue nerveuse leur bat les flancs. Ils attendent que le ver casse sous le poids d'un promeneur. Visiter l'élevage dans de telles conditions, on rebute prudent et peu de visiteurs tout compte fait s'y aventurent. Mais voilà, cet endroit où on entre qu'en rêve est présenté dans la continuité complète du reste de l'espace qui peut être visité. Il y a donc certains lieux qui sont communs aux rêves et à l'univers réel, entre guillemets. C'est le cas par exemple du fleuve équatorial dont il est question dans les Nara 21, 24 et 41. Et cette continuité entre monde onirique et éveillé jette un doute sur la possibilité de leur distinction. Ainsi, lorsque Dondog revient des voyages qu'il effectue les yeux fermés pendant les cours d'expression orale de Sarah Kong, et qu'il interroge celle-ci pour savoir où il se trouve, sa professeure lui répond « À l'intérieur de mes rêves, Dondog, voilà où nous sommes. » La sortie d'un rêve peut donc conduire dans un autre. Certains personnages viennent même à soupçonner qu'ils n'en sortent jamais, ou qu'ils n'en sortent pas en tout cas. C'est le cas de Sorgov Morumnidian, qui retrouve Sophie Girond apparemment sans avoir dû attendre une conjonction particulière de rêve. Et la possibilité même de cette rencontre pour lui, avec celle qu'il aime, avec Sophie Girond, est à ce point douteuse dans l'univers post-exotique que l'angoisse le gagne, et qu'il dit, je commençais à penser qu'aucune certitude n'étayait le monde qui nous entourait. Il ne semble plus savoir où il met les pieds, craignant à tout instant que la paroi de verre sur laquelle il semble marcher et qui séparerait les deux mondes ne vienne à se briser. Je cite encore un passage de Snara. J'interprétais le présent comme une suite d'illusions accrochées avec cohérence les unes l'une à l'autre, pardon, et incluant les moments de sommeil, de séparation, intégrant les événements les plus prosaïques de la vie quotidienne et fabriquant, en résumé, une sorte de réel parfaitement plausible, mais dont nous risquions d'être privés au moindre sursaut défavorable du destin. Donc, dès lors, la continuité de l'espace onirique avec l'état de veille amène à tenir le présent, tout au plus comme une illusion momentanée de cohérence. Et dès qu'on pose ça, le présent comme une illusion momentanée de cohérence, on peut considérer que le rêve fonctionne, lorsqu'il nous fait douter du présent, comme un opérateur de déterritorialisation du réel, qui lui ravit ses étés. Lorsqu'il sera d'ailleurs une dernière fois question de Sophie Giron dans le Nara 47, le caractère fictif de sa vie commune avec celui qu'il aime se confirmera, puisqu'il parle de Sophie Giron, de la femme que j'aimais, que je n'ai jamais rencontrée dans la réalité, car les couloirs sont dessinés de telle sorte que nul d'entre nous ne peut lier avec qui que ce soit de réel ou d'onirique des relations véritablement humaines. Autant dire que l'espace du rêve, malgré la circulation particulière des personnages qui le autorise, ne semble pas non plus autoriser une échappée véritable à la solitude dans laquelle chacun se trouve enfermé, puisqu'on rencontre même pas véritablement, s'il n'y a pas une véritable rencontre possible avec les personnages qu'on peut y trouver. Ça, c'était pour parler un peu de l'espace onirique. J'aimerais parler du cas de Krili Gompo, qui révèle une autre forme de solitude, celle du migrant. Donc ce voyageur qu'on retrouve dans ses étranges missions en apnée est soupçonné à deux reprises d'être un extraterrestre. Mais dans le fond, l'étrangeté radicale qu'on lui attribue en le présentant comme un extraterrestre ne fait que mettre en évidence un trait commun à l'ensemble des personnages qui rôdent dans des anges mineurs. Ce sont tous des étrangers. Étrangers les uns aux autres, étrangers au lieu qu'ils occupent. Les apnées de Gompo sont des situations transitoires, mais c'est également le cas de la vie des vagabonds qui squattent les immeubles en ruine, des arpenteurs de rêves ou des explorateurs malchanceux. On touche dans des situations transitoires. Dans le fond, il n'y a plus de territoire qui puisse réellement être approprié, qu'on puisse s'approprier, rien qui se laisse habiter. Là, j'aimerais citer alors un passage d'Adorno dans les Minima Moralia, qui écrivait « Il est devenu tout à fait impossible d'habiter, le temps de la maison est passé. Les destructions infligées aux villes européennes, exactement comme les camps de travail et les camps de concentration, ne font qu'exécuter ce que l'évolution immanente de la technique a décidé depuis longtemps quant à l'avenir des maisons. La possibilité d'habiter a été anéantie par celle de la société socialiste, qui en tant que possibilité manquée est devenue le mal rampant de la société bourgeoise. » Alors voilà, il faudrait commenter beaucoup plus en détail que je vais pouvoir le faire, non seulement cette thèse du temps de la maison qui serait passé, mais aussi le reste du fragment d'Adorno, qu'il écrit en 1944 alors qu'il est exilé aux États-Unis, et qui, dans le fond, me semble remarquer avec précision la situation de l'espace post-exotique. Il est devenu inhabitable après l'échec de son appropriation collective. L'exil est devenu la forme de rapport fondamental des hommes et des femmes à leur environnement, à tel point d'ailleurs que, pour certains personnages, des anges mineurs, toute nouvelle recherche d'exil est devenue, je cite, « incongrue ». Et en effet, dans un univers qui est marqué par l'extériorité radicale des individus, les uns envers les autres et envers toute forme de territoire, dans un univers qui se caractérise comme un dehors absolu, l'extériorité perd son sens, l'exil perd son sens. Tout le monde est dans le dehors, tout le monde est au dehors. Et à mon avis, c'est une proposition pour entendre le mot post-exotisme, un état historique de l'espace où le dehors absolu se confond avec son contraire, l'impossibilité de sortir. Et ça définit, me semble-t-il, un espace d'errance. Je saute un petit passage parce que le temps avance, mais on pourrait rattacher cette extériorité, ce dehors absolu, à des formes de... À la figure à partir de laquelle Hegel pense l'espace, comme Außer sich sein, hein. C'est-à-dire tous les points sont extérieurs les uns aux autres, c'est ça qui définit l'espace. Donc ça serait l'espace, tout simplement le fait d'être étranger les uns aux autres. Donc, bon, mais ça je ne développe pas. Il serait impossible donc de sortir d'un espace, en tout cas, qui serait défini comme le dehors absolu. Et c'est à ce point précisément, me semble-t-il, que l'univers post-exotique se referme justement. Puisqu'on ne peut pas sortir du dehors. Toute métaphysique ou toute transcendance semble ici exclue. Nous sommes dans un milieu de pure immanence. Et les lignes de fuite qu'on peut rencontrer semblent toutes reconduire à des figures du dedans. C'est notamment le cas de cet aigle qu'on voit à un moment donné au-dessus de la taïga et qui, je cite, « fuyait en ligne droite, migrant vers l'ancienne région des camps ». Peut-être parce que la nourriture y était plus abondante. Donc la ligne de fuite, elle conduit vers l'enfermement. Et on peut rattacher le cas des camps à ce qui vient d'être dit donc du dehors absolu et de l'enfermement à partir d'un commentaire d'Agamben que vous connaissez probablement, que je cite, que je rappelle simplement. Le camp est l'espace qui s'ouvre quand l'état d'exception commence à être la règle. Et si on entend le mot exception littéralement comme maintenir au dehors, le maintenir au dehors, eh bien alors, lorsque tout est accepté, lorsque l'exception devient la règle, le dehors devient le dedans, et les deux espaces sont indiscernables. Le camp est partout et nulle part à la fois. C'est probablement une des raisons pour lesquelles Solzhenitsyn parle, comme je cite, de cet étonnant pays du goulag, déchiqueté par la géographie, tel un archipel, mais soudé par la psychologie tel un continent. Donc ça serait aussi ça, peut-être, l'archipel, une déterritorialisation des espaces qu'on croyait protégés, fermes et rassurants. Solzhenitsyn décrit précisément que l'espace de l'archipel du Goulag, il s'étend partout, de manière fractale, dans tous les recoins de l'espace qu'on pouvait tenir pour rassurant, justement, juste de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de la palissade. C'est donc pas un ailleurs, mais ça passe simplement la Colima à l'autre bout de la Russie, mais c'est aussi un espace qui s'insinue partout et donc qui vient déterritorialiser les espaces protégés. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'espace des camps, il y aurait beaucoup de choses à dire, je dois y renoncer, il faudrait peut-être entrer dans d'autres textes, par exemple dans Dandog, notamment pour reconnaître que le devenir camp du monde reste tendanciel, hein, tant qu'il y a des Untermenschen et des Schwitt, il reste quelque chose comme une distinction entre un intérieur et un extérieur, même si on peut lire dans Dandog qu'on se trouve dans le temps après l'extérieur, après le temps où l'extérieur existait, pardon. Et donc on pourrait reconnaître que, dans le fond, ce qui arrive à l'espace avec le camp est une détermination dynamique, un devenir, et ça serait peut-être aussi un des effets de l'entropie dont je parlais, que de ne pas conduire ce devenir tout à fait jusqu'au bout, jusqu'au changement d'état, jusqu'au saut qualitatif, mais de maintenir tendu vers une limite. Alors j'aimerais dire un dernier mot sur le dehors absolu. On peut l'entendre également, comme exception je l'ai proposé, on peut l'entendre également comme extase, au sens où Sloterdijk retravaille ce terme, qui est un concept heideggerien en fait, et il propose de penser la naissance... comme venu au monde à partir de l'extase, de la position au dehors, en fait, l'existence comme sortie. Et je cite Sloterdijk dans Écume, « Quand on existe, on est tenu dehors, dans quelque chose, en quoi l'on ne peut pas, dans un premier temps, être auprès de soi-même. chez les hommes, ces excentriques ontologiques, l'être à l'extérieur précède l'être logé auprès de soi-même. Donc d'abord l'exil, en fait. Et si le nara central, le nara 25 des anges mineurs, thématise l'événement de la naissance, il le thématise précisément comme une sortie dans le pur dehors. Le lieu extatique de l'existence est un espace intermédiaire entre deux morts, celle d'avant et celle d'après. Et dans cet espace limbique, entre nos deux inexistences, entre deux morts, on ne rencontre que des fantasmas, des êtres oniriques, désirés pour certains, comme Sophie Gironde par exemple, errants, fantomatiques ou morts-vivants. Et la logique de ce lieu intermédiaire, de ce lieu extatique intermédiaire, pourrait bien être ce que Derrida nomme la hantise, c'est-à-dire un lieu qui va résister au travail du deuil, à la possibilité d'enterrer les morts, de les situer, je cite Derrida. Faire le travail de deuil, ça serait ontologiser les restes, les rendre présents, identifier les dépouilles, localiser les morts. Donc c'est une certaine, voilà, il faut un certain type d'espace pour produire le travail ontologique du deuil, alors que il me semble que l'espace qui se dessine dans des œuvres mineures ne le permet pas et serait un espace ontologique, un espace de la hantise, traversé donc par des anges mineurs, des vieilles immortelles, des femmes de rêve, des voyageurs perdus, qui n'est donc un espace qui n'est ni la terre, ni le ciel, ni l'enfer. Et donc un archipel de l'âme qui ne sont nulle part, qui échappe à toute localisation et qui sont littéralement utopiques. Une déterritorialisation absolue, donc. Toutefois, si je m'arrêtais là, à cette déterritorialisation absolue, à cette forme de l'utopie, je passerais à côté d'un phénomène essentiel qui est, au moins transitoirement, la reterritorialisation sur le plan énonciatif. C'est-à-dire que des anges mineurs met en scène sa propre production des îlots textuels qui la composent, et le Nara 22 est ici un tournant, un changement de plan, puisqu'on voit une source énonciative qui était jusque-là hors champ apparaître, Will Scheidman. Et il semble dans un premier temps qu'on gagne un centre fixe. Le lecteur comprend que Scheidman est l'auteur des récits, qu'il les invente depuis le milieu de la taïga déserte, pas très loin d'ailleurs, ce qu'il nous a dit, pas très loin du centre du monde. Et je passe un petit bout. Et donc, pas très loin du centre du monde et au milieu de la taïga, qui représente un espace. Tout à l'heure, je parlais du néant de la mort, d'avant l'existence. Il y a un néant qui précède le texte. Lorsque Scheidman dit « Je ne demandais qu'à dormir sans histoire, là où j'étais, c'est-à-dire nulle part », on serait avant le début du récit. Et à partir du moment où le récit commence, c'est un autre espace il y a un autre espace vide qui surgit, et c'est l'espace de la taïga où va se déployer le récit. Cet espace, la taïga intermédiaire et vide, est la figuration diégétique de ce plan énonciatif, précisément. C'est elle que viennent remplir les narras, la fiction de la parole scheidmanienne, et c'est pourquoi je voudrais la comparer au réceptacle, à la kora platonicienne, ce qui va être... Platon disait de la kora qu'elle ne se laissait concevoir qu'en rêve, donc ça colle assez bien avec la figure onirique dont j'ai parlé. Et ça sera un espace atopique cette fois, puisque c'est le lieu qui reçoit la possibilité même du lieu de localiser les choses. Alors dans le Timé, on peut lire « C'est à peine si on peut y croire, nous l'entrevoyons comme dans un songe, en nous disant qu'il faut nécessairement que tout ce qui est soit quelque part dans un lieu déterminé, occupe une certaine place, et que ce qui n'est ni sur la terre ni en quelque lieu, sous le ciel, n'est rien. » Ça, c'est la définition que Platon donne de la corail. Je pense qu'on peut lire l'espace vide de la taïga rempli par les par les naras de Scheinman comme un espace choratique. Donc, une fois qu'on a lu le nara 22, on croit en tout cas avoir trouvé un centre. Scheinman au milieu de la taïga choratique est une reterritorialisation du plan diégétique sur le plan énonciatif. Mais cette situation vient très vite se compliquer. Dès l'instant où ces deux plans commencent à se distinguer, à se dédoubler, on va avoir d'autres effets de dédoublement et d'implication réciproque qui ne cesseront de se démultiplier au point de brouiller tout à fait le repérage entre le plan diégétique, le plan des récits de Scheinman et le plan de l'énonciation même produite par Scheinman. Le décentrement le plus spectaculaire, hein, on pensait que Scheinman était proche du centre du monde et il va se trouver décentré dans le Nara 43 qui commence ainsi. Comme tous les 16 octobre, depuis bientôt 1111 ans, j'ai rêvé cette nuit que je m'appelais Will Scheinman alors que mon nom est Clementi, Maria Clementi. Et le dispositif suggère donc que le plan du récit de Scheinman, qu'on pensait pouvoir avoir identifié comme le soubassement énonciatif de l'ensemble des naras, n'est lui-même que l'effet d'un rêve d'un des personnages de ce récit. Le plan énonciatif se replie donc sur le plan diégétique, une pliure qui est elle-même redoublée au moment où Maria Clementi invite en rêve Will Scheinman à appeler son prochain tas de naras des anges mineurs. Puisque désormais, le texte, le paratexte et même des pans entiers du reste de l'œuvre de Volodine, puisqu'on retrouve le texte des anges mineurs par Maria Clementi présenté ou cité dans d'autres textes, je pense à Un étrange soupir de John Untermensch ou bien dans la leçon 11, il en est question du des anges mineurs de Maria Clementi. Donc c'est également des autres portions, c'est pas seulement le titre de cet ouvrage, mais c'est des autres portions de l'œuvre qui sont réabsorbées à l'intérieur du plan diégétique. L'espace fictionnel, donc, rend poreuse la distinction entre diégèse, récit et narration. Le dehors paratextuel se renverse dans le dedans de l'histoire et aucun plan ne paraît plus pouvoir échapper à la résorption dans l'espace post-exotique. Pas de dehors, une nouvelle fois. Il n'y aurait pas de hors-livre qui ne soit pas déjà impliqué. Même si, évidemment, toutes les instances et leur place intradiégétique, narrative, auctoriale ne se confrontent pas pour autant. Elles sont prises dans un mouvement de différences perpétuelles, mais elles se renversent les unes dans les autres. Et en ce sens, l'espace littéraire post-exotique serait très exactement, ou approcherait, disons en tout cas, ce que Derrida appelle un espace de la dissémination, c'est-à-dire, je cite, dans lequel il n'y a du texte, il n'y a que du texte, il n'y a que du hors-texte. Dans tel espace, donc, pour reprendre le projet qui était le mien, dresser une cartographie, peut-être qu'il faut renoncer à faire une cartographie de ce texte-là. La possibilité semble très compromise, en tout cas. Mais ça n'interdit pas, peut-être, de chercher autre chose, c'est-à-dire de proposer, à la place d'une cartographie des anges mineurs, de proposer une topologie, et de chercher un modèle topologique qui permette de penser ces implications, ces entre-implications de l'espace. Évidemment, proposer un modèle, il faut le faire avec quelques précautions. Un modèle, c'est toujours provisoire, partiel. On ne prétend pas décrire l'ensemble, épuiser l'ensemble de la réalité. Ça a une valeur heuristique. Et donc, ce que je propose, c'est aller chercher justement dans la topologie un modèle. Donc, avancer l'hypothèse suivante. La forme de l'univers qu'on trouve dans des anges mineurs, au-delà de cette forme en archipel, ça pourrait être quelque chose comme la bouteille de Klein, version tridimensionnelle de l'anneau de Möbius, qui me semble représenter un modèle adéquat pour penser ces phénomènes d'entre-implication. En effet, la bouteille de Klein, ou l'anneau de Möbius, c'est peut-être plus facile de se représenter l'anneau de Möbius, c'est un objet mathématique qui rend non pertinent la distinction entre le dehors et le dedans. C'est-à-dire qu'on suit un plan, on pense être à l'extérieur et on se retrouve dans une parfaite continuité à l'intérieur. Il me semble que c'est la même chose avec les plans diégétiques et énonciatifs dans le cadre de des anges mineurs. Au point que toute localisation devient indécidable et que celui ou celle qui voudrait trancher, littéralement, ne s'en sort pas. Et je cite la fin du Nara de Maria Clementi. Consacré à Maria Clementi, je ne savais plus si j'étais Jules Scheinman ou Maria Clementi. Je disais je au hasard et j'ignorais qui parlait en moi, quelles intelligences m'avaient conçu ou m'examinaient. Je ne savais pas si j'étais mort ou si j'étais morte ou si j'allais mourir. Je pensais à tous les animaux décédés avant moi. Pour ajouter à la confusion, je ne voyais pas ce qui s'ouvrait derrière le titre, un roman étrange ou simplement une liasse de 49 narras étranges. Donc il est impossible de tenir le plan énonciatif pour un lieu de reterritorialisation. Les mécanismes qu'on vient de voir montrent qu'il est à son tour radicalement déterritorialisé. Et c'est finalement cette déterritorialisation, le point commun qui rassemble les différentes figures que j'ai mobilisées. L'archipel mobile, le rhizome fractal, la kora, finalement la bouteille de Klein, toutes ces figures définissent le terrain post-exotique comme une utopie, au sens où la déterritorialisation absolue qu'elle vise déconstruit la logique du topos. Impossibilité d'établir une propriété, impossibilité d'y inscrire un centre, impossibilité d'y dessiner un ordre. La résolution des différents plans les uns dans les autres exclut notamment tout surplomb énonciatif ou auctorial, toute position extra-diégétique qui pourrait prétendre à une maîtrise. Et en ce sens, l'espace fictionnel post-exotique est profondément anarchique. Et c'est, me semble-t-il, le point où la topologie devient politique. J'aimerais maintenant conclure très, très brièvement, en une minute, si j'ai le temps, pour parler de ce qui arrive à l'espace de cette fiction que j'ai traversée à la fin des Anges mineurs. Si j'ai évoqué la steppe mongole comme espace choratique, j'aurais pu également parler de la nuit. La nuit qui semble avoir la même fonction, on peut lire à la page 92, et maintenant avec la nuit, on était plus à l'aise pour inventer des images. Donc c'est aussi un espace qu'on peut remplir de récits d'images au même titre que la steppe mongole. La nuit ou l'obscurité désigne d'ailleurs la provenance de l'extase spatiale, ce paradis noir d'où l'on vient quand on est et où l'on retourne quand on meurt. Et dont Will Scheinman affirme que tous ces personnages gardent la nostalgie. Il y a une nuit avant la taïga, une nuit avant la mort de 100 milliards d'années, qui est l'abîme qui précède l'existence. Et cette nuit, on peut lire la chose suivante à son sujet. Il pleuvait en bordure de l'espace noir. Comme l'écoulement du temps n'avait pas encore débuté, donc on voit qu'on est avant le début du temps, avant le début de l'histoire, l'ondée prit fin dans l'incertitude et après des chutes de gouttes isolées, le silence se rétablit. Donc il y a ce silence nocturne auquel vient faire écho la nuit d'après, donc ça je parlais de la nuit d'avant, il y a la nuit d'après qui est celle de l'ultime nara, qu'on pourrait voir comme une forme inversée de la Genèse, si, et lux fugit si on veut, où on voit le dernier homme et la dernière femme en haut du monde, donc juché sur un monticule de cendres, disparaître progressivement dans l'obscurité. On peut lire, au bout de quelques années, les ténèbres augmentèrent. On assiste donc à l'extinction simultanée de la lumière, de l'humanité et de la voix narrative. Disons cela et n'en parlons plus, sont les derniers mots qui précèdent la marche blanche. Aussi, tout l'espace de la fiction, qui a été déployé sur quelques 200 pages, se résout et se résorbe alors silencieusement dans la nuit, qui est la nuit entre les pages au moment où on ferme le volume. L'espace tridimensionnel de la carte, qui est maintenant replié, l'espace bidimensionnel pardon, de la carte qui est annulé au moment où on ferme la carte ou le livre, mais qui gagne une dimension supplémentaire, celle du volume. Alors voilà, pour terminer, on pourrait se demander avec Mallarmé, par exemple, si l'instance d'une lecture, rien n'aura eu lieu que le lieu, excepté peut-être, et bon, je vous laisse compléter. Merci de votre attention.
Merci Antonin pour cette communication qui avait par moments qui m'a semblé au fur et à mesure être comme une exploration partant sur une direction qui est d'abord celle de l'espace, qui passe du côté de l'énonciation, qui ensuite essaie encore de trouver un autre débouché toujours vers l'utopie et qui vers une réflexion utopique qui débouche aussi sur une question politique qui est celle de l'anarchie qui a été le mot qui a été lancé vers la fin et que je trouve intéressant et qui m'intéresse moi en particulier étant donné que justement tout la série d'échecs que tu as énumérés auparavant peut parfois être interprétée comme justement un espace de renoncement à l'utopie ou qui désarçonne toute possibilité d'y trouver encore de l'utopie et tu essaies de dépasser ça et d'une façon que j'ai trouvé convaincante, donc merci. Est-ce que vous avez... on a quelques minutes, alors pas énormément, hein, parce que on a trois interventions, mais oui, Jean-Pierre Vidal.
Jean-Pierre Vidal. Vous votre lecture très précise du texte, vous avez soulevé les tas de questions qui, moi, me préoccupent depuis très longtemps, que j'interprète quant à moi par une analyse fouillée du mythe du labyrinthe des Grecs, qui est très proche de ça. Hein. On a la topologie, on a... mais ce qui m'intéresse en particulier, la question qui a été soulevée, c'est au moment où vous avez évoqué la bouteille de Klein, et où le banc de bus, et où vous avez dit « c'est un espace dans lequel, en suivant... continuellement, disons, l'intérieur, on se retrouve à l'extérieur. Mais le problème de ça, et à mon avis c'est la clé de la position politique de l'utopie, c'est à quel moment chacun, individuellement, se retrouve, peut dire qu'il se retrouve à l'extérieur ou qu'il est à l'intérieur. Puisque, à la limite, c'est un espace qui est construit de telle façon que ces distinctions, au début, n'apparaissent pas. Ça n'est qu'à un certain moment qu'on se dit « Ah tiens, là, brusquement, je suis à l'extérieur. » Mais on n'est pas tous à l'extérieur au même moment. Mais je pose bien la question. C'est donc la question du kairos grec, le bon moment, le bon lieu. Et je crois que c'est cette espèce de... C'est une sorte de machine de guerre critique qui est lancée contre la situation que nous vivons actuellement où... par l'équivalence généralisée, par les processus de massification, il n'y a plus d'individu, à la limite, il n'y a plus de lieu. Et ce que vous avez décrit me paraît, moi, être l'émergence de l'individu en rapport, disons dialectique, gros mot, en rapport avec le collectif, mais lié à cette question du moment. Je ne sais pas si c'est une question.
C'est en tout cas... une piste qui me semble d'accrocher la question du kairos sur me paraît tout à fait intéressant. C'est vrai qu'on peut se demander où est le kairos dans un espace où il n'y a pas de dedans et de dehors. Et c'est bien la question de comment la politique réintervient, où est sa place si elle se laisse difficilement localiser comme ça dans la littérature. Alors peut-être que la suggestion, c'était la question de l'anarchie, c'est que c'est dans le dispositif ou dans la forme que se trouve le kairos politique de l'œuvre d'Antoine Volodine.
Politique virale.
Oui.
C'est l'anarchie du virus, je dirais.
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Je pense que c'est assez d'accord.
Audrey Camus.
Ce que je trouvais intéressant, c'est ce que tu disais sur le fait que l'atopie, finalement, que l'absence d'ancrage géographique soit à un moment rattrapé par un réancrage initiatif et puis qu'on le reperde. Parce qu'à mon sens, en littérature, l'atopie, ça implique nécessairement, finalement, une absence de repère à la fois géographique, mais aussi générique, mais aussi littéraire, pour en parler dans le dispositif littéraire lui-même. Donc il me semble que dans ce redoublement-là, il y a quelque chose qui parle très bien d'Antoine Volodine et qui est intéressant.
Il me semble en tout cas que parler de l'espace utopique de la littérature, ce qui était le titre que j'avais proposé, c'était une manière de traverser précisément les différents espaces, et y compris l'espace, pas seulement l'espace qui est mis en scène, mais aussi l'espace du dispositif énonciatif, l'espace du rapport avec les autres textes, le hors-texte, le problème de... et qu'il faut que l'espace littéraire englobe ces différents niveaux, et il me semble particulièrement, effectivement, en dialogue les uns avec les autres, se mettant en abîme les uns avec les autres dans un texte comme Des anges mineurs.
Claire Calland.
Yes. Justement, j'ai peut-être mal compris, et vous m'excuserez. Vous aviez annoncé Westphal, donc rédaction de son ouvrage de géocritique. Finalement, j'ai eu l'impression qu'il s'est perdu en cours de route. Donc voilà, je m'en étonnais. Et en même temps, je me disais, pour avoir assisté à quelques conférences et avoir été là aussi à Limoges quand la géocritique s'est créée, qu'on a de plus en plus de difficultés à s'en servir. Alors que c'est assez récent, hein, on l'a fait en 2000. Mais les dernières conférences que j'écoutais sur le sujet, notamment à Montréal, disaient d'emblée, je vais travailler sur la géocritique, mais finalement, ça ne marche pas.
Alors,
je suis désolée, hein,
non, mais c'est peut-être...
je les transmets, c'est tout. Mais donc c'est ça, j'aurais aimé votre...
C'est peut-être le même constat, c'est-à-dire dans un premier temps... Je dois avouer que j'ai découvert très très récemment ces travaux de géocritique, mais je ne savais pas comment nommer ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire traiter justement de l'espace avec toutes ses dimensions, et puis par analogie à la géophilosophie deleuzienne. Je trouvais que le terme géocritique était intéressant, puis après je suis allé regarder, puis je suis tombé, effectivement, j'ai vu que Westphal avait lancé un programme de ça, c'est pour ça que... Et puis en même temps... Il y a le rapport entre l'espace réel, puis la manière dont il est refictionalisé, puis cette dialectique entre des espaces qu'on occupe, ça me paraissait pas fonctionner dans ce cas-là. C'est pour ça que j'ai un peu annoncé que je me situais peut-être dans les parages, ou peut-être qu'il faut élargir la géocritique autrement. Je pense que c'est intéressant de quand même interroger la fiction à partir de la question de l'espace. À partir de la question des plans, des questions de déterritorialisation, etc., qui, ben, il nous faut plutôt un appareil de concepts spatiaux, géographiques, et puis en même temps, ben, peut-être qu'il faut aller chercher, ça demande d'étendre au-delà de...
Deleuze marche très bien.
Deleuze marche très bien.
Il était quand même beaucoup question de déterritorialisation, et ça vient pas de n'importe où non plus.
Moi, j'étais admiratif.
Il l'a dit mieux que moi. Il l'a dit mieux que moi.
Je me suis entraîné.
Mais merci, Antonin.
Bon. Merci, Antonin. De toute façon, je pense que. Patrick Rebola, une dernière question.
Comment vous pourriez réinscrire ce que vous avez dit dans la tradition des anges? Parce que la notion d'espace et l'ange.
Alors. Oui. Bah, dans le fond, J'ai pris le modèle de l'archipel, on aurait pu en prendre plein d'autres, hein. On aurait pu parler des sept ciels, comme on aurait pu parler des cercles infernaux de Dante, puis, comme on pourrait parler des limbes également. Je pense que, de nouveau, j'ai pris un modèle qui n'est pas exclusif de... Et je pense qu'il faudrait combiner, je pense qu'on pourrait par exemple faire une lecture du rapport entre les différents naras de ces îlots en prenant le modèle de la constellation benjaminienne par exemple. Je pense que ça pourrait fonctionner aussi dans ce sens-là. Il y a une organisation en constellation, ce qui serait d'ailleurs la réponse au « excepté peut-être », je suis malarmé, c'est la constellation. Ouais, ça ouvre une piste, mais oui, les anges, les cieux, il faudrait combiner.
Bien, merci.